Radio Kapi.
Oh, Kapi.
À la une de l'actualité, la baisse de consultations prénatales et la prise en charge des enfants touchés par Ebola inquiètent les acteurs de la riposte en Ituri. En mission de la province, les directeurs régionaux de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre appellent au renforcement de soins de santé primaire. À Kinshasa, les députés nationaux évaluent avec le gouvernement et le Fonds monétaire international la mise en œuvre du programme économique conclu avec la RDC. L'objectif est de mesurer les progrès des réformes et de renforcer le contrôle parlementaire sur les finances publiques. À Walika, au Nord Kivu, les acteurs judiciaires réclament l'ouverture d'un tribunal des grandes instances autonomes. Ils estiment que l'absence d'une juridiction supérieure pénalise les justiciables et compromet l'accès à une justice de proximité. Christophe Makassing à la présentation, encore une fois, bienvenue dans cette grande édition. En Ituri, la prise en charge des enfants touchés par l'épidémie d'Ebola reste un défi majeur. La capacité d'accueil des structures spécialisées, notamment la crèche, demeure insuffisante. Par ailleurs, la fréquentation des centres de santé a fortement baissé, notamment chez les femmes enceintes, par crainte de la contamination. Face à cette situation, les directeurs régionaux de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, qui a clôturé sa mission jeudi en Ituri, appellent le gouvernement et ses partenaires à renforcer les soins de santé primaire. Isaac Raymond.
À Bounia, une seule crèche spécialisée accueille les nourrissons et jeunes enfants atteints d'Ebola ou devenus orphelins à la suite de l'épidémie. Elle fonctionne au centre de traitement d'Issémé. Des enfants âgés de 3 et 9 mois y ont déjà été déclarés guéris. Pour le directeur régional de l'UNICEF, cette structure reste insuffisante au regard du nombre d'enfants affectés par l'épidémie. Il plaide pour le renforcement de la capacité d'accueil et de la prise en charge pédiatrique. Gilles Fagnin.
Les crèches, on en a besoin de beaucoup plus. Parce qu'il y a beaucoup plus d'enfants qui n'ont pas la chance de profiter de ce type d'accueil.
Autre sujet d'inquiétude, la baisse des fréquentations des structures sanitaires. À Bounia, le nombre d'accouchements à milliers médical est passé d'environ 130 à 30 par mois, selon Gilles Fagninou. Cette situation s'accompagne d'une hausse de la mortalité maternelle qui nécessite, selon lui, une analyse approfondie afin d'apporter des réponses adaptées.
Il est important qu'on revoie bien ces statistiques et qu'on se pose des question de continuité de service, de s'assurer que les services dont les enfants ont besoin, dont les femmes ont besoin, dont la communauté a besoin, aujourd'hui on ne peut pas laisser tomber, on risque de regresser.
Les responsables de l'UNICEF rappellent également que la riposte contre Ebola ne doit pas faire oublier d'autres priorités de santé publique où des progrès importants avaient été enregistrés avant cette épidémie. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Toujours en Ituri, l'insuffisance des financements consacrés à la riposte contre l'épidémie d'Ebola, les retards dans le paiement des primes des agents de santé ainsi que des préoccupations liées à la gestion des fonds risquent de compromettre la lutte contre la maladie. C'est ce qu'affirme le cadre de concertation de la société civile et l'Ituri dans un rapport publié jeudi à Bounia. L'organisation appelle les gouvernements et ses partenaires à prendre des mesures urgentes pour renforcer la riposte. Isaac Raymond encore une fois.
Selon le cadre de concertation de la société civile de l'Ituri, les plans conjoints des ripostes du gouvernement et de l'OMS, évalués à 510 millions de dollars pour la période de juin à novembre 2026, n'étaient financés qu'à 35% à la mi-juin. L'organisation estime que cette insuffisance des moyens ralentit les opérations sur le terrain. Les rapports citent notamment l'absence des centres de traitement dans plusieurs centres de santé touchés, les retards des 2 mois dans les paiements des primes des risques de certains agents de santé, ainsi que des difficultés dans les suivis des personnes contact estimé à 17,4%. Il dénonce également un manque de transparence dans la gestion des fonds et des présumées irrégularités sur les listes des payes. Autre préoccupation, la faible implication des acteurs communautaires dans les décisions stratégiques. Face à ces constats, le cadre de concertation recommande la mise en place d'un comité provincial de suivi, les paiements réguliers des primes des agents de santé, l'extension des centres de traitement aux zones non couvertes, un audit indépendant de la gestion des fonds et le renforcement du traçage des personnes contacts. Le ministre de la Santé publique à Mission Bounia a promis de faire le suivi de ses préoccupations et de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la riposte. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Kapi.
Dans le même registre, les leaders communautaires appelaient à diffuser de messages positifs et responsables au sein de leur communauté. Cet appel a été lancé hier jeudi à Béni au Nord Kivu. C'est à l'issue d'une sensibilisation qui a réuni des leaders communautaires, des responsables des confessions religieuses ainsi que de membres de groupes de pression et des mouvements citoyens. Il s'agit d'une initiative de l'organisation Hands for Help. Elle vise à renforcer le rôle de ces acteurs dans la sensibilisation de la population, mais aussi dans la lutte contre la désinformation et les rumeurs qui ont autour cette maladie. Nicole Lufungi, chargée de programme des Hands for Help, explique les sens de cette activité au micro de Marc Marofimbo.
Ça fait déjà plusieurs épidémies, on a tendance à normaliser Ebola, alors que c'est une maladie qui est très dangereuse, et surtout que c'est un virus qui change des souches. Alors c'est toujours important de communiquer avec la même intensité qu'à la première épidémie par exemple. Moi je dirais que qu'à ce niveau, il y a encore beaucoup à faire. Donc nous devons mobiliser davantage autour de la communication parce que l'acceptance communautaire, l'engagement communautaire, c'est la base de toute opération. Donc que chaque leader puisse faire passer des messages qui sont constructifs dans son cercle d'influence, notamment appeler la population à prendre conscience du danger qui existe par rapport à Ebola, mais également attirer l'attention de la population sur les mesures de prévention, qui sont des mesures simples, comme le lavage des mains, la distanciation sociale, les recours précoces aux structures des soins, les alertes. En tout cas, ce sont des mesures simples que les leaders doivent vulgariser.
Par la même occasion, l'organisation Hands for Help a procédé à la remise d'une dizaine de kits de lavage de mains aux représentants de la communauté. Il s'agit d'un appui destiné à renforcer les mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola au sein des différents espaces publics et communautaires. Plusieurs habitants de Lusambo de la province du Sankuru consomment depuis bientôt un mois et demi l'eau brute de rivières Sankuru et Lubi. C'est la suite à une panne survenue sur les générateurs du centre secondaire de la régie des eaux Lusambo. Cette crise d'eau potable qui persiste pousse les ménagères à parcourir de longues distances, pour certaines plus de 10 km, pour se ravitailler aux rivières Sankuru et Lubi ou encore dans des sources aménagées depuis plusieurs années, mais souvent non entretenues. Des explications avec Esther Ndalafina.
Dans le quartier, les scènes des femmes parcourant de longues distances avec des bidons en main, bassins sur la tête pour atteindre les puits aménagés et les rivières Sankuru et Lubi pour puiser l'eau brute se répètent. Selon Denise Nyang, cette corvée est devenue épuisante.
Nous souffrons énormément pour avoir d'eau, même pour se laver, pour préparer.
L'eau de la rivière n'est pas propre, affirme Rebecca Kalanga, mais nous n'avons pas le choix.
La rivière Sankuru commence dans des mines. Les gens qui sont au mines ils n'ont pas de besoin dans l'eau, les enfants sont obligés de boire cette eau-là.
Pour contourner cette difficulté, Jacqueline Ngongo se réveille tôt le matin avant que la rivière soit agitée.
Je me réveille à 4h du matin pour aller chercher de l'eau à la rivière Sankuru, distance de 2 km.
Face à cette situation, la population pointe du doigt la régie des eaux dont le générateur principal est en panne depuis quelques semaines. Interrogé Didier Mboudilelo, directeur régional de la régie des eaux se fait rassurant.
Les fonds sont déjà disponibles. On réunit les pièces de rechange pour aller réparer les groupes électrogènes et remettre les centres
en service. En attendant la remise en service du réseau, les habitants de Lusambo déplorent déjà la noyade d'un de leurs fils. Esther Ndalafina Mbujimai, Radio Okapi.
Nous sommes pendant la saison sèche dans plusieurs coins du pays et le feu de brousse commence à causer des dégâts. Au Kasaï central, deux maisons réduites en cendres. C'est le bilan de celui survenu hier au village de Mukolo, c'est dans les territoires des Demba. Les familles sinistrées ont tout perdu. D'après plusieurs témoins, le feu aurait été allumé par un inconnu avant de se propager aux habitations. André Katendenga Lumulume.
Selon les habitants, le feu est parti d'une brousse voisine avant d'être poussé par le vent jusqu'aux habitations. En quelques minutes, les flammes ont englouti deux habitations. Les voisins se sont mobilisés. Avec des branches et des seaux d'eau, ils ont tenté de stopper le flamme. Mais le feu était très violent. Il ne reste que des murs noircis et des cendres. Aucune perte en vie humaine n'est signalée. Mais les deux familles sinistrées sont sans abri et passent désormais la nuit à la Belle Étoile. Elles lancent un appel à l'aide pour reconstruire leur maison. Face à cette situation, le coordonnateur territorial de la nouvelle société civile congolaise, territoire des Demba, invite la population à ne pas s'adonner à la pratique feu de brousse. Marcel Massanka.
C'est un mouvement que nous n'avons pas salué, des fausses habitudes. Il faut vous préserver, de ne pas brûler la brousse et aussi tirer même nos enfants à l'oreille pendant la journée, de ne pas jouer avec les feux, parce que chaque fois qu'ils jouent avec les feux, soit à la maison, il y a risque même de perdre la maison et certains biens.
Les feux de brousse sont fréquents dans le village du Kasaï central, surtout pendant la saison sèche. Chaque année, ils provoquent d'importants dégâts matériels et menacent les populations. Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, le programme économique conclu entre la RDC et le Fonds monétaire international a été au centre d'un échange hier jeudi à l'Assemblée nationale. Gouvernement, responsable du FMI et députés ont fait le point sur les réformes engagées, les résultats obtenus et les défis à relever. C'est le président de l'Assemblée nationale qui a conduit cette rencontre. Aimé Bojisangara l'a présenté comme un exercice de relevabilité destiné à renforcer le contrôle parlementaire sur la gestion des finances publiques. Il vise à permettre aux élus de mieux suivre la mise en œuvre de ces programmes qui soutiennent des réformes économiques et les finances publiques au pays. Les détails avec Grâce Amzati, notre permanent au Parlement.
En vigueur depuis janvier 2025, le programme conclu entre la RDC et les FMI mobilise près de 3 milliards de dollars pour accompagner les réformes économiques du pays. Selon le représentant résident du FMI, René Tapsoba, plusieurs avancées ont été enregistrées, notamment une meilleure mobilisation des recettes publiques, la modernisation de la gestion des finances de l'État, ainsi que le renforcement de la transparence et de la lutte contre la corruption. L'institution financière relève également une croissance économique projetée à 5,6% en 2026, une inflation maintenue en dessous des 3% des réserves internationales estimées à près de 8 milliards de dollars. De son côté, le ministre des Finances Doudou Fouamba attribue ses résultats aux réformes engagées par le gouvernement, parmi lesquelles la digitalisation de l'administration fiscale, l'interconnexion des régies financières et la généralisation de la facture normalisée. Il a toutefois plaidé pour une réforme du système fiscal afin d'améliorer le climat des affaires et d'accroître les recettes de l'État. Cette rencontre a aussi permis aux députés membres de la Commission économique, financière et des contrôles budgétaires ECOFIN de mieux s'approprier les réformes en cours afin de renforcer leur mission de contrôle de l'action gouvernementale.
Je l'ai dit au sommaire, l'absence d'une juridiction supérieure à Walika, le Nord-Kivu, continue de pénaliser les justiciables. Les constats est dressés par des acteurs judiciaires après l'interruption inattendue d'une audience foraine organisée dans ces territoires par le tribunal de grande instance de Goma, siégeant actuellement à Beni. Ces acteurs plaident pour l'ouverture urgente d'un tribunal de grande instance autonome à Walikale. Les détails avec Bernana Nyangi.
Lancée autour du 8 juin dernier, l'audience foraine organisée au chef-lieu de Walikale devait se poursuivre jusqu'à la fin du mois de juillet. Mais contre toute attente, elle a été interrompue le 29 juin, déplore Maître Patient Ouboni, l'un des avocats de la place. Sur plus de 50 dossiers inscrits au rôle, moins d'une dizaine avaient été examinés pour cet acteur de la justice. Cette situation démontre la nécessité de créer un tribunal de grande instance autonome dans le territoire afin d'éviter de tels désagréments à l'avenir.
Les mauvaises conditions de travail des juges et la non prise en charge de ces derniers seraient à la base de cette interruption brutale des audiences foraines, alors que plusieurs dossiers traités étaient en cours ici. Nous demandons que le Conseil supérieur de la magistrature pense à la création d'un tribunal de grande instance autonome, parce que à cause de la mauvaise route, mais aussi la distance qui sépare Walikale du chef-lieu de la province à Goma. Il y a des dossiers qui restent à Walikale pendant longtemps sans être traités.
Rappelons qu'au chef-lieu du territoire de Walikale, seul le tribunal de paix est actuellement fonctionnel. Les affaires civiles, commerciales et pénales, relevant de la compétence du tribunal de grande instance, s'accumulent ainsi depuis plusieurs années. Cette situation prive également les justiciables d'une juridiction d'appel de proximité et contribue davantage à l'allongement des délais de traitement des affaires.
Retour au calme dans la soirée d'hier après des troubles qui ont eu lieu dans la cité des Dilolo, province du Lualaba. D'après plusieurs sources locales, le bureau abritant le tribunal de paix et les parquets près des tribunaux ont été saccagés puis incendiés par une foule en colère. En outre, la prison des Dilolo a été attaquée par des manifestants et quelques détenus se sont évadés. À la base de ces incendies, la mort d'un homme qui a été au parquet à la suite d'une plainte que sa femme a déposée contre lui après une dispute. Le point avec Paul Mounanga.
Durant l'instruction devant un OPJ du parquet, l'homme a fait un malaise. Et c'est en cours de route vers l'hôpital général de référence de Dilolo qu'il est mort, souligne l'administrateur assistant de Dilolo en charge des questions économiques et financières. Socrate Chikos précise que la famille de la victime, accompagnée par une foule de la population, est allée déposer les corps devant les bureaux du parquet près le tribunal de paix de Dilolo. La famille accuse le parquet d'avoir traîné avec la victime qui était souffrante. Les manifestants en colère ont vandalisé puis incendier les bureaux. Ensuite, ils se sont attaqués à la prison de Dilolo. Simplice Mwamba, porte-parole du cadre de concertation de la société civile dans les territoires de Dilolo, dénonce ces incidents. Mais il condamne la justice qui, d'après lui, doit être équitable dans cette entité.
Les jeunes ont incendié les parquets ainsi que les tripés. Et après, ils sont allés libérer 6 prisonniers qui étaient là. La justice doit être équitable. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas ici à Dilolo. Le magistrat a arrêté les gens arbitrairement et puis les amendes.
L'administrateur assistant de Dilolo annonce que les services de sécurité ont ouvert une enquête pour retrouver les fauteurs des troubles. Lubumbashi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En Afrique du Sud, les manifestations contre les immigrants en situation irrégulière se poursuivent. Le mouvement March on March a lancé une campagne de mobilisation hebdomadaire jusqu'aux élections municipales de novembre 2026. À Johannesburg et Durban, plusieurs rassemblements ont été marqués par des agressions contre des commerçants et des intimidations visant des étrangers présumés sans papier. Dans ces contextes, les autorités ont renforcé les opérations de police contre l'immigration irrégulière, tandis que plus de 45 000 étrangers auraient déjà quitté le pays.
L'invité.
L'intelligence artificielle transforme progressivement les métiers du chiffre, mais constitue-t-elle une menace ou une opportunité pour les cabinets comptables en RDC? Cette question a été au cœur d'un atelier organisé mercredi 8 juillet à l'ouverture du 2e congrès de l'Ordre national des experts comptables de la RDC. Boni Maya, expert en stratégie et gouvernance de l'intelligence artificielle, répond aux questions de Jocelyne Moussaou.
Boni Maya, bonjour.
Bonjour madame.
Mercredi, vous avez animé au 2e congrès des experts comptables un atelier intitulé « Intelligence artificielle, data analytics et automatisation, transformation ou disparition des cabinets traditionnels ». Dites-nous, quelle est la principale conclusion qui se dégage de ces échanges ?
Aujourd'hui, comme dans toutes les entreprises, les cabinets d'expertise comptable utilisent l'intelligence artificielle, mais chacun l'utilise un peu de façon silotée, sans une vraie vision et une vraie gouvernance au sein du cabinet. Ce manque de vision et ce manque de gouvernance stratégique fait en sorte que cette utilisation n'est pas optimale. Et j'ai bien affirmé le fait que les entreprises ou les cabinets d'expertise comptable ne seront pas remplacés par l'intelligence artificielle, mais seront remplacés par les cabinets d'expertise comptable qui auront maîtrisé l'usage de l'intelligence artificielle. Ces cabinets mettent en place des outils de gouvernance, des outils de routines stratégiques et des documents qui leur permettent aujourd'hui d'établir une politique d'usage de l'intelligence artificielle au sein de ces cabinets-là. Et c'est ce qui fait la vraie différence entre les cabinets qui les utilisent de façon silotée et les cabinets qui les utilisent de façon gouvernée et encadrée.
Et beaucoup craignent que l'intelligence artificielle remplace certains métiers. Selon les échanges de votre atelier, doit-elle être perçue comme une menace ou comme une opportunité pour les experts comptables ?
Alors, à mon sens, l'intelligence artificielle ne remplacera pas forcément les métiers, mais plutôt remplacera les tâches les plus répétitives. Dans les métiers des experts comptables, il y a des tâches des productions de documents comptables et documents d'audit qui, aujourd'hui, peuvent être exécutées à l'aide d'intelligence artificielle et de façon vraiment efficace. Mais par contre, ces documents qui sont générés requièrent quand même une expertise pour pouvoir être validés, pour pouvoir juger de la profondeur de l'analyse qui a été faite. Et donc, d'une certaine manière, il est toujours important d'avoir des compétences d'expertise comptable pour pouvoir être en mesure de juger les documents qui sortent d'une intelligence artificielle, que ce soit le document comptable ou pas.
Et la RDC est encore confrontée à des défis des numérisations. Les cabinets comptables congolais sont-ils prêts à intégrer l'intelligence artificielle ou il existe-t-il encore des obstacles majeurs à surmonter selon vous ?
Pour pouvoir intégrer l'intelligence artificielle au sein d'un cabinet ou d'une entreprise quelconque, il faut d'abord commencer par faire un test de maturité de l'IA. C'est un test, donc c'est une série de questions, 35 à 45 questions, sur qui analyse 7 piliers différents et qui, au final, donne un niveau de maturité, de préparation à l'intelligence artificielle pour un cabinet d'expertise comptable ou pour toute autre entreprise. Ce score-là, qui sera en pourcentage, permettra d'identifier quels sont les piliers qui posent des risques et quels sont les piliers qui sont déjà efficaces. Et de cette manière-là, un cabinet d'expertise comptable peut savoir sur quel pilier appuyer, qu'est-ce qu'il faut renforcer pour pouvoir être en mesure aujourd'hui d'adopter facilement et de façon la plus aisée l'usage de l'intelligence artificielle au sein du cabinet.
Revenons sur le thème du congrès Bonimaya. Le professionnel comptable, acteur clé de la croissance économique et de la transparence financière. En quoi l'intelligence artificielle peut-elle aider les experts comptables à mieux accompagner les entreprises et à renforcer cette transparence?
L'intelligence artificielle a un rôle d'augmentation. Donc, c'est-à-dire que une compétence, quel que soit le domaine dans lequel vous êtes, si vous avez un certain niveau de compétence et que vous utilisez une intelligence artificielle qui est à même de vous aider, cette intelligence artificielle multiplie vos compétences pour pouvoir vous donner un certain niveau, donc pour vous augmenter. Effectivement, les cabinets d'expertise comptable à ces jours peuvent facilement se voir augmenter par un usage approprié, encadré, gouverné de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle vient aussi travailler sur le fameux triangle QCD, donc qualité, coût, délai. L'intelligence artificielle permet d'avoir une qualité accrue en termes de profondeur d'analyse des missions d'expertise comptable. Elle permet également de réduire les coûts parce que on ne recourt plus à plusieurs outils à la fois, on ne recourt plus à plusieurs mains d'œuvre, mais elle permet également de réduire les délais de traitement. Aujourd'hui, un expert comptable peut faire une comptabilité d'entreprise en une heure alors que auparavant il lui fallait des semaines et des semaines d'analyse des données.
Bonimaya, merci.
Je vous en prie.
Fin de cet entretien avec Bonimaya, expert en stratégie et gouvernance de l'intelligence artificielle. Il répondait aux questions de Jocelyne Moussaou. C'est ici que prend fin cette grande édition des 18h. Christian Makassing était à la présentation sous la coordination de Jean-Désiré Kanyama avec Alain Goyi à la mise en onde. Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Retrouvez ces journaux en podcast sur notre site et suivez toute l'actualité en continu sur www.radiookapi.net ainsi que sur les différentes plateformes numériques. Excellente soirée à toutes et à tous. Rendez-vous à 19h pour les derniers bulletin d'information de ces vendredis.